Ceux qui n'en ont pas, eh bien, je pense qu'on va vous en apporter, j'espère bien, parce que ça va être autrement pour vous peut-être un petit peu ennuyeux. Alors, le thème de cette journée, de cette conférence, c'est le centre de briques, c'est-à-dire la partie qui se trouve à l'intérieur de la première enceinte. Pendant très longtemps, on a pensé que cette partie de la ville était pratiquement la seule qui avait des fortifications et qu'il a fallu attendre la guerre de 100 ans pour qu'on construise la seconde enceinte, c'est-à-dire ce qui correspond au boulevard, à la zone des boulevards. Ça paraît invraisemblable. Ça paraît invraisemblable parce que la guerre de 100 ans commence donc dans les années 1350. À cette époque-là, la population de la ville est très importante. C'est une ville de marchands, une ville qui est prospère, et il est presque impossible que ces gens se soient tassés dans la première enceinte, alors que vous allez voir, il y a finalement très peu de maisons. La preuve en est que vers 1250, on a des textes, on a des actes, qui parlent déjà des portes de la deuxième enceinte, c'est-à-dire les portes qui correspondent au boulevard extérieur. Seulement, elles n'ont pas les mêmes noms, évidemment. En 1250, la porte des sœurs, donc qui donne vers l'ouest, s'appelait le portail Lénousie. La porte qui donnait vers Turenne, vous voyez, qui était la route Paris-Toulouse, s'appelait le portail Raymond, parce que ça correspondait à Raymond de Toulouse. Raymond de Toulouse pour Raymond de Turenne, pour le comte. Et enfin, il y avait une troisième porte qui, à cette époque-là, correspondait à la sortie vers le pont, ou plus exactement vers le guet, et ça s'appelait le portail du GUA, ce qui veut dire le portail du guet, le passage sur la rivière. Alors, les historiens de Brive, très étonnés par ce nom, se sont dit ça doit être un personnage qui s'appelait comme ça, et ils ont inventé un monsieur Martin Delga, qui aurait soi-disant, au moment de la guerre, une guerre contre le vicomte, protégé la porte. Ça, c'est les légendes du 19e siècle. Je vous dirais que quand on fait l'histoire d'une ville et qu'on utilise essentiellement les historiens du 18e et du 19e siècle, on a des surprises. Parce qu'ils ont beaucoup, beaucoup d'imagination. Alors, il y avait donc de la population autour de cette partie centrale, très nettement, depuis 1250 au moins, et probablement par quartier qui était déjà déterminé. Mais aujourd'hui, moi, je vais me contenter de la partie centrale, c'est-à-dire de ces 3 hectares, tout à fait minuscules, qui étaient entourés par ce qu'on appelait les anciens fossés, ou du moins ce qu'on a appelé les anciens fossés vers le XVIIe siècle, et c'est un nom qui est tout à fait caractéristique. Ça veut dire qu'il y a un fossé, en occitan c'est un valat, V-A-L-A-T, et il y a un fossé, il y a un ruisseau, et même vous allez voir plusieurs ruisseaux qui coulent dans ces fossés, mais il n'y a pas de mur. Ce sont les maisons qui servent de mur. C'est-à-dire que toutes les maisons qui sont en bordure de ce fossé et de ce ruisseau n'ont pas d'ouverture extérieure, et elles sont donc théoriquement, en tout cas à chaque fois que la période est une période de paix, elles sont théoriquement pas ouvertes, quoi. Du moins, on peut passer par des petits passages. Dès qu'il y a une guerre, dès qu'il y a une période d'insécurité, on ferme ces passages et la ville intérieure est donc close. Mais enfin, il faut vous imaginer que c'est vraiment au tout début du Moyen-Âge. Puisque, je vous le dis, dès qu'on arrive à 1200 ou à peu près, ça ne sert plus. Et ça commence à s'appeler justement les anciens fossés, et pas les nouveaux fossés. Anciens fossés. Alors maintenant, les maisons qui bordent donc ces fossés, à qui elles appartiennent? Eh bien, en principe, elles appartiennent aux seigneurs de la ville. Et les seigneurs de la ville sont deux. Il y a le vicomte de Turenne, d'une part, et puis il y a le baron de Malemort, le seigneur de Malemort. C'est ce qu'on appelle donc le Brive une co-seigneurie. Et ça va avec Malemort. Alors vous me direz, dans ce cas-là, qu'est-ce que le prieur était ? Eh bien, le prieur n'est pas du tout seigneur de la ville de Rouen. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il possède des maisons, et ces maisons, ce sont seulement celles qui entourent la cathédrale, la collégiale. Oui. Autrement dit, quand on étudie l'intérieur de la ville, de cet intérieur donc, de la première enceinte, on a une couronne de maisons qui font le tour des fossés et qui sont toutes au vicomte de Turenne ou au baron de Malemort, ou aux deux à la fois. Et puis ensuite, vous avez une deuxième série de maisons qui entourent le Moustier, la collégiale, et qui sont, elles, des maisons qui appartiennent au prieur. Alors vous allez me dire à quoi ça sert de savoir que ça appartient au prieur ou que ça appartient au vicomte. Eh bien, ça sert parce qu'il y a des reconnaissances de ces maisons. Les vicomtes de Turenne se fichaient un peu de ce qu'ils avaient. Ils ont conservé très peu de documents sur ce qu'ils avaient comme propriété dans le Rive, et donc on ne peut pas compter sur eux. Le prieur de la ville, et aussi les chanoines un peu plus tard, ont certainement eu ce qu'on appelle des terriers, c'est-à-dire des livres dans lesquels on décrit leur maison, et ils se les font reconnaître par les locataires, c'est-à-dire les gens de la ville, mais malheureusement ces terriers ont disparu. On n'en a plus que ce qu'on peut appeler les épaves. Alors on a les épaves du terrier de l'aumônier, qui était une des charges de chanoine, la société archéologique. On a des épaves du terrier du prieur, quelques épaves du terrier de l'infirmier, qui était une autre charge, mais c'est tout. Ça nous donne une dizaine de maisons, pas plus, dont on connaît donc les propriétaires. Et évidemment, c'est très intéressant, parce que ça peut remonter très haut. Le vicomte duc de Noailles a acheté la vicomté de Turenne en 1738. Il avait acheté d'autre part dès 1585, c'est-à-dire à la fin, au milieu des guerres de religion, la cosseigneurie de Malemort, c'est-à-dire ce qui appartenait au baron de Malemort. Et donc, à partir de 1585, il est à moitié cosseigneur de Rouen. À partir du XVIIIe siècle, 1738, il est complètement seigneur de Brive. Et alors à ce moment-là, les brévistes en ont vu toutes les couleurs. Les ducs de Noailles étaient des procéduriers, des gens qui passaient leur temps à essayer de se faire payer les rentes qu'on leur devait, mais ça faisait des années qu'on ne les avait pas payées, et à faire des procès. Et pour nous, c'est une chance extraordinaire, parce qu'ils ont fait recopier tout ce qu'ils trouvaient à l'époque du XVIIIe siècle, et qui datait quelquefois du XIIIe ou du XIVe siècle, ils ont fait recopier tout ça pour leur procès. Et la chance pour nous, eh bien, c'est qu'on a au moins les copies, parce que tous les originaux ont bien entendu disparu pendant la Révolution. Il ne faut pas oublier que pendant la Révolution, la première chose que les gens ont fait, c'est de détruire tout ce qu'ils pouvaient rappeler qu'ils avaient à payer des rentes. Tellement ils avaient peur qu'on revienne un jour ou l'autre à l'Ancien Régime. Et à Brive, ça a été des feux de joie interminables sur la bière, hein, de tous les papiers qui concernaient Brive. Alors, c'était sûrement très joyeux et très marrant, mais le résultat, c'est que maintenant, on est très gênés. Heureusement que les ducs de Noailles ont été procéduriers, et en particulier qu'ils ont fait un procès terrible au consul de la ville de Brive, justement sur la propriété des remparts. À cette occasion, ils ont carrément fait reconnaître toutes les maisons des anciens fossés, autrement dit toute la première enceinte, et aussi toute la seconde enceinte. Toutes les maisons de la seconde enceinte. Ce qui fait que toutes ces maisons-là, on en connaît les propriétaires, et en gros, on les connaît depuis le Moyen-Âge. Voilà. À côté de ça, vous avez des maisons dans Brive, des zones de Brive qui sont, si vous voulez, complètement inconnues, parce que justement, personne, on ne sait pas à qui est le seigneur, et puis voilà, on n'a pas leur papier. Il faut à ce moment-là compter uniquement sur des papiers familiaux. Mais voilà, papiers familiaux, c'est rare. Les Brive passent pour particulièrement pauvres en papiers familiaux. Il faut dire qu'il y avait à côté de Brive, à partir du 18e, 19e siècle, des moulins à papier. Et alors, on refabrique du papier, des moulins à paille. Et donc, on envoyait des tonnes de vieux papiers de vieux parchemins, de tout ça, à ces moulins, et tout ça, ça disparaît. Ça, c'est un peu dommage pour l'histoire de Brébeuf. Alors maintenant, justement, quand même, il y a un prieur. Il y a quand même quelqu'un qui représente la religion à Brive, qui n'apparaît pas dans l'histoire de Brive, il est parfaitement discret, mais enfin, il existe. Et comme vous le voyez sur ces cartes, eh bien, il est propriétaire à lui tout seul de pratiquement un tiers des 3 hectares. Je commence par la page 1. Alors, la page 1, c'est précisément le quartier du prieuré. Alors, j'ai pris comme point de découpage l'église Saint-Martin, la collégienne Saint-Martin. Autrement dit, vous trouvez en principe à chaque coin de ces feuilles la collégiale de Saint-Martin, pratiquement au milieu de la collégiale. Alors, ce qu'on peut constater, donc, dans ce premier quartier, qu'on peut appeler plus ou moins le quartier du prieuré, eh bien, d'abord, c'est que ce prieuré se compose d'un bâtiment en aile. Une partie qui est dans la direction est-ouest correspond à l'actuelle bibliothèque, et une partie qui avait un sens nord-sud touchait à l'église et fermait complètement, si vous voulez, le cloître qui était donc dans la partie intérieure. Le cloître correspondrait à peu près, comme vous le savez, à la place devant la bibliothèque, là, et la partie qui avançait, et bien maintenant, elle est complètement ouverte, et la barrière a été ouverte dès le 19e siècle. Alors ça, ça fait déjà un bâtiment. Un bâtiment et un cloître. Alors dans le cloître, on enterre bien sûr les moines, les chanoines plus tard, et puis le prieur, s'il y tient. On n'enterre pas dans Saint-Martin, parce que tout le monde craint que si on enterre dans Saint-Martin, on découvre l'endroit où était... Saint-Martin espagnol, c'est-à-dire sa tombe, et on ne veut pas donc enterrer dans l'église. Le résultat, c'est qu'un certain nombre de bourgeois se font enterrer dans le cloître. Théoriquement, c'est assez rare. En l'occurrence, ils veulent être enterrés là. Ensuite, alors, vous avez d'immenses jardins. Et ces jardins, ils vont pratiquement, ce sont tous ce qui est pointillés, vous voyez, en pointillés un peu légers. Ce sont des jardins donc qui vont jusqu'aux limites de la première enceinte. Toujours un bâtiment religieux, il y a le presbytère de Saint-Martin. Alors le presbytère de Saint-Martin est au fond d'une petite impasse qui longe le prieuré. Juste à côté, toujours en numéro 9, il y a des petites maisons qui sont aux chanoines, et en particulier à l'aumônerie. Voilà donc pour la partie appartenant au prieur et aux chanoines. Alors ensuite, vous allez avoir des maisons que l'on peut considérer comme des maisons nobles. Comme vous le voyez aussi, dans l'intérieur de cette partie, ça fait très très peu de maisons. On peut en compter, disons, une dizaine, un peu plus d'une dizaine. Il est donc hors de question qu'il y ait beaucoup de gens qui habitent là. Mais au début du Moyen-Âge, ce qu'on constate, parce que ces maisons, on en a les anciens propriétaires, au début du Moyen-Âge, on constate que ces maisons sont en réalité des petits groupes de maisons, et qu'ensuite, vers le 15e ou 16e siècle, certains riches bourgeois ont racheté une série de maisons et ont formé comme ça un ensemble. Alors, un exemple qui est tout à fait caractéristique, c'est la maison 1. Alors la maison 1, c'est celle qui, au fond d'une impasse, a une très belle porte voûtée et qu'on appelle la maison Maillard. Alors devant, sur la place, sa façade a été complètement modifiée au 19e siècle, au 19e siècle, par Adrizio, qui a fait une sorte de petite décoration. Et donc, extérieurement, on ne se rend pas compte que c'est une maison très vieille. Alors au début du Moyen-Âge, elle appartenait à un monsieur Minet, à un monsieur Laurent et à un monsieur Roux. Autrement dit, il y avait 3 maisons, et c'était probablement pas des gens très très riches. Seulement, la famille Maillard, dont on réentendra parler, parce que c'est une des plus grosses familles de Brive. La famille Maillard achète ces 3 maisons, pratiquement après la guerre de Cent Ans, et on fait un seul bloc. On va avoir les mêmes, la même chose pour d'autres maisons. Alors un exemple qui est tout à fait caractéristique, c'est la maison qui appartient au maréchal Brune et qui l'a vendue à François Marbeau juste avant la Révolution. La maison du maréchal Brune, c'est la maison 6. Elle est, comme vous le voyez, en bordure de la première enceinte. C'est une grosse maison. Bon. Et cette maison Brune, elle appartenait au Moyen-Âge à un monsieur qui s'appelait Salès, S-A-L-2-S. Il avait par-dessus la rue de Corrèze, parce qu'à l'époque, ça s'appelait la rue de Corrèze, pas encore la rue à jour. Oui. Il avait donc au-dessus de la rue un porche, une chambre, vous voyez, et on appelait ça donc la porte Salès, la porte de Monsieur Salès, tout simplement. On peut imaginer que cette porte était fermée donc en temps d'insécurité. Mais je vous dis, au tout début du Moyen-Âge, on ne peut pas dépasser le XIIIe siècle. Juste après cette porte, se trouvait un pont, et ce pont passait sur le ruisseau. Alors, comment s'appelle ce ruisseau? Ce ruisseau qui fait voyer tout le tour de cette zone. Alors, il a deux noms. Tantôt, on l'appelle le Nany, N-A-N-Y, et tantôt, on l'appelle l'Anix, L'A-N-X. Dans les deux cas, c'est un nom qui n'est pas très compréhensible. Alors maintenant, il faut imaginer ces maisons sur la partie donnant sur le ruisseau. Forcément, ce n'est pas très agréable. Ces ruisseaux, ils servent à tout. Lorsqu'ils partent du sud de Brive, puisqu'ils viennent du sud, ils commencent par rencontrer des quartiers de tanneurs, des quartiers de bouchers, et personne ne se gêne pour mettre dans le ruisseau tous les immondices qu'on a trouvés. Alors, l'Anix a dû pas trop servir, parce qu'il n'avait pas du tout de courant, c'était vraiment un ruisseau très petit. Mais en revanche, l'autre, qui passait de l'autre côté de l'enceinte, et que nous verrons quand nous verrons l'autre partie de Brive, qui s'appelle soi-disant le Verdançon, s'appelait en réalité le Verdançon, comme dans toutes les villes où il y a un ruisseau qui traverse la ville. Seulement dans la plupart des villes, les gens ont été moins pudiques qu'à Brive, et au lieu de les appeler Verdançon, ils ont gardé l'ancien nom, le Verdançon. Et lui, alors, il était vraiment, il méritait son nom. Parce que à partir, disons, de la deuxième enceinte, il se mettait à traverser un quartier de boucher et de cordonnier, enfin tous les métiers du cuir. Et ça, c'est particulièrement salissant. Nécessairement, arrivant dans la ville, alors là, dans la ville intérieure, ça devenait épouvantable.
Il y avait l'hôpital.
Il passait plus du côté du couvent des cordonniers. Pas si près de l'hôpital. À l'hôpital, il y avait un ruisseau qui descendait. Ah ben lui, c'était l'Anix. Il faisait le tour par là. Alors il est possible qu'effectivement, le vieil hôpital était dans la ville quand même. Le vieil hôpital, il n'était pas à l'extérieur, vous voyez. C'est assez tard, c'est 17e seulement, à l'extérieur. Bon, alors ce quartier, très malheureusement, mais il fallait bien faire quelque chose, il a été traversé en 1893 par la rue Carnot, qui n'est pas la plus belle, enfin qui n'est pas, si vous voulez, la plus pittoresque, la plus animée des rues qui ont été percées au 19e siècle. Elle a surtout malheureusement traversé une très belle maison, qui était la maison numéro 3. Et cette maison numéro 3, elle a une histoire, elle, qui est tout à fait classique de ce quartier. C'est la maison de la famille des Cornes du Pérou. Ça, c'est au XVIIe siècle, XVIIIe siècle. Les Cornes du Pérou, c'est une famille noble, et même très noble, qui vient du Quercy au départ, qui s'installe ensuite au Pérou, c'est-à-dire à Malemort, et puis qui enfin s'installe à Brive. Alors elle s'installe à la suite d'un mariage avec une demoiselle Bureau. Alors cette demoiselle Bureau, elle n'est pas non plus de Brive, elle est de la région d'Aurillac en Saint-Trie, autrement dit presque l'Auvergne, et ces Bureaux sont venus en tant que greffiers du tribunal. Et ils sont venus à la suite d'une sombre histoire, parce qu'ils ont été accusés par le prieur d'Auriac, qui était donc le seigneur d'Auriac, de fausse monnaie, de sorcellerie et d'enchantement. Et ça se passait aux alentours de 1600. Alors en 1600, quand on était accusé d'enchantement et de sorcellerie, il valait mieux faire ses bagages. C'était pas la peine d'essayer de se défendre. Ce qu'on constate, c'est que probablement Cédurou avait déjà à ce moment-là des alliances à Brive, parce que le prieur se plaint qu'il est soutenu par la justice de Brive et qu'on n'arrive pas à le condamner. Mais enfin, il a préféré quand même l'air de Brive, quoique chaud et moins sain que celui d'Auriac, à la région de la Saint-Louis. Il est descendu. Donc la demoiselle Duroux, très riche, qui a plusieurs domaines, épouse ce seigneur qui lui est beaucoup moins riche, mais qui est de très ancienne noblesse, et il s'installe donc dans la maison Duroux. La maison Duroux, c'est cette maison sur la place. Alors elle passait dans le temps pour être une des plus belles maisons de Brive. Alors les plus belles maisons de Brive, il y en avait plusieurs. Alors celle-ci, c'était surtout une maison qui avait des tourelles, et puis qui avait, on voit une photo de cette maison, c'est vraiment une photo fin 19e ou début 20e, je ne sais pas, puisque c'est avant le percement de la rue. On voit que c'est une grosse maison avec des petites tourelles, et en bas c'était des magasins de Monsieur Métas, et puis avant lui d'un autre marchand dont je ne me rappelle plus le nom. Bref, c'est dommage pour cette maison. Mais comme vous le voyez sur le plan, quand même, elle bouchait complètement, ou presque, la rue Majour, en tout cas l'entrée de la rue Majour. Alors, le résultat de ce percement, c'est que les maisons qui se trouvent dans cette zone ont presque toutes été reconstruites, sauf quand même une très belle maison, qui est la maison 4. Alors, la maison 4, c'est une maison qui appartient donc à monsieur Bachellerie de Neuvillard. Alors, au départ, c'est monsieur de Neuvillard. Monsieur de Neuvillard est un banquier. Les banquiers, et ça se passe au XVIe siècle, les banquiers sont bien sûr les gens les plus riches du coin. Ils sont aussi pas très aimés, parce que ce qu'on appelait être banquier à l'époque, c'était en réalité prêter à intérêt, et à des intérêts très forts. C'est ce qui faisait la richesse des banquiers, d'ailleurs. Alors, bien entendu, certains l'arrivée. Argent m'intéresse. C'est le principe. Non, bah oui, mais quand même, ils ne prennent pas au même taux. Les taux de l'époque étaient vraiment usuraires. Hein. C'était plus que dangereux pour la portée de l'argent. Donc, monsieur de Neuvillard, sa fille épouse un bachellerie. Les bachelleries sont des gens riches, mais moins riches que les Neuvillard. N'empêche que c'est un beau mariage. Donc, il s'installe dans la maison. Ensuite, la fille d'un bachellerie fait un mariage encore plus prestigieux, puisqu'elle épouse un noble qui est maître de forges, qui possède des forges, et qui s'appelle monsieur de la Chapelle Saint-Jean. Jumillac. Hein. Chapelle Saint-Jean, Jumillac. Ouais. Comme vous voyez, c'est un nom un peu à rallonge. Lequel vend sa maison à monsieur Glastéry du Saillant, autre personne noble. Hein. Lequel le vend quand même assez rapidement à M. Malpère. Alors, les Malpères, c'est comme les Maillards, c'est une des familles les plus riches de Brive, mais elle est moins ancienne à Brive. Les Malpères ont dû venir seulement vers le XVIe siècle. Ils sont plusieurs branches, si bien qu'on les appelle les Malpères de la Place, les Malpères du Pont, les Malpères de Corrèze, bref, une série de Malpères. Et cela, c'est donc les Malpères de Corrèze. Ils achètent la maison et en 1810, je crois, ils la revendent à un monsieur Marbeau, qui d'ailleurs se spécialise dans les achats dans le coin, puisqu'il a aussi acheté la maison Brune, qui est en face. Ça veut dire qu'il est en train de coloniser le quartier. Et pour finir, il y aura un des maires de Brive, qui s'appelle Barthélémy Hérol, qui est pratiquement, avec monsieur Chapelle, je crois, le titulaire de la plus longue mairie à Brive. M. Hérol, c'est au milieu du 19e siècle. Voilà donc pour ce quartier. Et je passe à la famille numéro 2. Nous passons cette fois-ci dans le quart nord-est Cabré. C'est-à-dire que nous sommes tout près d'ici. Nous sommes à deux pas d'ici. Alors, ce quartier nord-est, comme l'autre quartier que nous venons de voir, il est quand même en grande partie religieux. Puisqu'on y trouve la cure de l'église de Saint-Sernin, qui pourtant est, elle, hors des murs, assez loin. Puisqu'on y trouve aussi la chapelle de Sainte-Catherine, qui est pratiquement à l'endroit où passe maintenant la rue Pierre et Marie Curie. On y trouve l'immense cimetière du Verdier. Et enfin, on trouve les jardins de deux grosses maisons nobles, même très nobles, qui sont la maison numéro 1 qui est dite de Langlade, et la maison numéro 3 qui est dite la maison de la Bonifacie. Ça, ce sont des maisons qui existent encore. Alors la maison de Langlade à l'extérieur sur la place, elle a perdu ses caractères vraiment anciens, elle a une façade qui a été refaite au 19e siècle, mais en revanche, la maison 3, alors cette maison 3, c'est celle qui est dans la rue dite de la Petite Place, la Verrière, et qui possède au rez-de-chaussée une salle de conférence, qui s'appelle Suzanne Lacan, je crois. Vous voyez, où on va, où on ira d'ailleurs là, au mois d'octobre. Hein. C'est là qu'on croit le dernier mardi d'octobre. Bon, alors cette maison-là, de la Bonifacie, est une maison noble. Elle a une forme étrange, parce qu'évidemment, elle est située le long du ruisseau du Verdançon. Cette fois-ci, on a donc le Verdançon. Et ce Verdançon, comme vous le voyez, il vient donc de la partie sud. Il traverse la rue Sainte-Claire sous un pont, la rue de la Petite Place, la rue A, sous un pont. Et là, il dévie légèrement et il longe cette maison de la Bonifacie. Ensuite, il passe sous la chapelle des Doctrinaires, il traverse leur jardin, le jardin des Doctrinaires, et enfin il rejoint la place du Ciboire. Alors ce Verdançon est tantôt donc à ciel ouvert, à travers les jardins, et tantôt recouvert par ce qu'on appelle des ponceaux, ou des petits ponts, voilà, face aux maisons, très souvent, pour que les gens au moins puissent sortir de la maison. Alors, dans ce quartier, on peut d'abord parler du cimetière du Verdier. Alors, ce cimetière du Verdier, c'est le cimetière des brévistes, en réalité. Sauf ceux qui ont réussi à se faire enterrer dans le cloître, et sauf ceux qui, en principe, seraient enterrés au Ciboire, c'est-à-dire un cimetière des pauvres, eh bien, c'est là que se trouve la majeure partie des brévistes de la ville. Ce cimetière va être utilisé jusqu'au XVIIIe siècle. Et puis, comme vous le savez, au XVIIIe siècle, il y a eu un grand effort d'hygiène et aussi de religion. Les évêques ont eu l'ordre d'aller dans leur paroisse, d'interdire, alors là, formellement, d'enterrer dans les églises. Ça se passe vers 1770, vous voyez. Et également, d'interdire, ou en tout cas, de blâmer les gens qui gardaient des cimetières à l'intérieur des villes. Donc ils avaient ce côté, si vous voulez, religieux qui consistait à dire les gens traversent le cimetière, c'est même ouvert aux animaux, ici passe des choses pas catholiques, la nuit, bref, c'est pas bien, il faut supprimer ça. Et ils se trouvaient en accord avec les hygiénistes, on est au XVIIIe siècle, les gens commence à avoir des idées sur la propreté, l'hygiène, il était temps. C'est d'ailleurs sous l'influence des Anglais, car si vous lisez les voyages, les récits de voyage des Anglais en France, au XVIIIe siècle, vous apercevez qu'ils sont sans arrêt en train de dire que la France, c'est dégoûtant. La description partout de Prime est tout à fait caractéristique. Il me dit, ah, de l'extérieur, c'est une très jolie ville, là, parce qu'il arrive par la Pigeonnie. Mais dès qu'on entre, les rues sont sales, puantes, nauséabondes, trop étroites, il n'y a pas d'air, etc. Bon, eux-mêmes à Londres, bon, ce n'est pas extraordinaire, mais la ville de Londres a brûlé, presque entièrement au XVIIIe siècle, et donc, ils ont pu faire le ménage. Ils avaient sur nous des idées, sur les auberges par exemple françaises, c'était épouvantable. Ils reconnaissaient que la nourriture était excellente, mais les punaises, le cabinet au fond du jardin, et tout ça, et puis le manque de Saint-Germain, bien sûr, tout ça c'était pas du tout comme chez eux. Donc on a mis, nous, un petit siècle, vous voyez, à les rejoindre, à tenter de les rejoindre. Alors, j'en étais... Ah oui, moi, j'en suis à mon Berdanson. Dans ce Berdanson, pratiquement à l'endroit où il y a écrit A, c'est-à-dire dans la rue de la Petite Place, il y a une sorte... il y avait dans le temps une sorte d'ouverture, et on pouvait, par cette ouverture, descendre dans le Berdanson, qui était voûté, il y avait une très belle voûte en grès, et se promener tout le long du Berdanson. Alors, évidemment, ce n'était pas pour les âmes sensibles, parce que ce Berdanson méritait son nom. On voyait toutes les arrivées des différentes maisons, et dans le fond du ruisseau, une quantité de morceaux de grès, de verre, de petits pots de faïence, de petits pots de grès, qui avaient été jetés pour son débarrasser. Mais c'était très pittoresque. Et on pouvait pratiquement aller depuis la rue Gambetta, c'est-à-dire le carrefour de la rue Verlac et de la rue Gambetta, vous voyez, devant la pharmacie, hein, jusque dans les doctrinaires, c'est-à-dire passer sous la chapelle, continuer à travers la place, vous voyez, en direction du Ciboire. Malheureusement, ça se passait dans les années 70-80. Ensuite, la ville a mis des buses, c'est-à-dire qu'à l'intérieur du ruisseau, elle a complètement canalisé avec des buses, avec des grosses tensions. On ne peut plus descendre, c'est bien dommage. Mais c'est un beau souvenir. C'est un beau souvenir, et je vais vous dire une chose, on y est descendu avec le club archéologique de Cabanis, lycée Cabanis,
vous l'aviez dit
à une époque où certainement il n'y avait aucun principe de précaution. Je vois la tête que ferait maintenant le proviseur si je leur annonçais que je descends dans les égouts avec les élèves.
Vous l'aviez dit.
Alors, les parents n'auraient pas fait d'histoire. Les parents ne faisaient pas d'histoire. Mais j'imagine ce que ça serait maintenant avec le principe de précaution.
Vous l'aviez dit une fois lors d'un tour de ville que vous avez fait.
Oui, oui, avec des gens. Avec des potes, oui,
et ça m'avait fait drôle, là, dans le petit truc, vous avez dit, on était descendu avec les élèves.
Oui, oui, ben, oui, les élèves de cette époque-là, ceux qui avaient 14 ans, 15 ans, en 70, se sont bien amusés. C'était une époque où les parents étaient peut-être moins anxieux que maintenant.
Enfin, ils ont vu.
Alors que nous, on peut pas. Ah, ils voyaient bien d'autres choses.
Oui, bien sûr.
Ils se promenaient dans les grottes, ils se promenaient dans les souterrains refuges, tout ça. Maintenant, je. Je ne crois pas que ce serait
possible.
C'est impossible à faire. On va avoir des assurances épouvantables. Bon, j'en reviens quand même à mon secteur. Alors, cette maison de la Bonifacie, qui est donc en longueur, là, elle est superbe. Si vous allez la voir, vous verrez qu'elle a des fenêtres du XIIIe siècle, qui sont magnifiques, et qui ressemblent un peu à celles de Martel. C'est d'ailleurs la preuve qu'entre Martel et Brive, il y a pas mal de relations au Moyen-Âge. C'est donc la maison d'un très riche bourgeois et marchand vers 1200-1300 qui s'appelle Monsieur Mercier. Il mérite son nom. Je vous rappelle que les Merciers, ce sont les marchands de tissus venus de France, autrement dit les beaux tissus, pas les tissus régionaux, mais vraiment les tissus lointains, les fourrures. C'est eux qui vendent aussi les fourrures. Ils vendent même aussi des bijoux. Des pierres précieuses, toutes sortes de choses donc de valeur, et ils sont considérés comme les rois des marchands. C'est le mercier, ou le roi même des merciers, qui organise les foires, c'est-à-dire qui place les gens. Et donc ce monsieur Mercier est quelqu'un de bien, quelqu'un qui s'est fait une très très belle maison. Ensuite, elle va passer à une famille Louvenac, puis une famille Jouffre, et enfin à une famille Antignac, Maldon de la Poujade, c'est-à-dire des nobles. Et c'est une maison qui devient donc, à ce moment-là, une maison noble. Alors, l'autre maison qui nous pose des problèmes, c'est la maison de Langlade, c'est-à-dire la maison 1. Langlade, c'est un village de Brive, qui est tout à fait au sud de Brive, au sud-ouest de Brive, presque à la limite avec Saint-Pantaleon. C'est un village qui appartient aux hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. Les hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem y ont une maison. Ils sont propriétaires des rentes de tous les paysans du coin. Et cette maison est à eux. Elle s'appelle la maison de l'Anglade.
La grande maison qu'on
vend. La grande maison qui fait le coin de la place. Où il y a maintenant au rez-de-chaussée des légumes, des fruits et légumes. Alors. Ben, ça s'appelle là-haut. Sur la place.
Juste derrière l'église.
Oui. C'est un carrefour. Parfait. Je pense que c'est très bien pour les gens gris, parce qu'au moins, c'est bien du fruit et des légumes à l'intérieur de la ville, ce qui avait disparu depuis pas mal de temps. Ça, c'est bien. C'est très bien. À côté de cette maison, passait un petit ruisseau, qui venait probablement d'ailleurs du Verdançon, qui n'était pas propre du tout lui aussi, et qu'on appelait l'Infernet. Non, c'est bien l'enfer. Hein. Il traversait le cimetière, et il rejoignait la cour des doctrinaires. Juste à côté, au numéro 10, il y avait une tour. Et cette tour, on s'aperçoit qu'elle fermait la place, elle fermait dans le cimetière, si vous voulez. C'était une tour qui appartenait au prieur, et ça veut dire que cette partie-là, vous voyez, était considérée comme complètement appartenant aux religieux. Ça veut dire aussi qu'il y avait possibilité de fermer ce cimetière et cette place. Ce qui fait que le prieur, à ce moment-là, était relativement protégé. Ensuite, on se demande où était la porte de cette première enceinte. Alors, en principe, elle est dans la rue de la Petite Place et probablement dans la maison de la Bonifacie. La maison de la Bonifacie a dû, à un moment donné, être surmonté d'une arche, devant d'une chambre, et puis cette partie-là pouvoir être fermée. Voilà comment ça se présente de ce côté-là. Enfin, ce qu'il faut retenir, c'est surtout l'existence de cette tour, la tour de Ravel, parce que pour l'instant, on n'a pas du tout parlé de ce qui était les fortifications de Brive. Comment Brive pouvait se défendre quand il y avait une attaque. Ça, c'est vraiment une petite chose. Alors, ce qu'on sait, il y a quand même quelque chose d'intéressant, c'est que les rues qui se trouvent au sud de Brive, c'est-à-dire autour de la rue Puy-Blanc, la rue Gambetta et dans cette zone-là, s'appelaient le quartier de la Guette, G-U-E-T-E, ou le quartier de la Motte, M-O-T-E. Qu'il s'agisse de la Motte ou qu'il s'agisse de la Guette, ça veut dire qu'il s'agit d'une tour, un petit château, si vous voulez, qui doit être, nous sommes au début du Moyen-Âge, tout début, qui doit être encore vraiment assez petit. Et cette tour, ou cette motte, elle a dû disparaître donc assez vite. On pense qu'elle appartenait au vicomte de Turenne, puisque tout ce quartier lui appartient, et qu'une fois qu'il a démoli cette tour, il a dû le faire assez vite. Il a dû le faire dès qu'on a fait la deuxième enceinte. Vous voyez, parce que c'était plus la peine d'avoir une tour à l'intérieur d'une enceinte. Eh bien, cette zone, il l'a complètement lotie. Et vous le voyez très bien, mais là, nous sommes en dehors de la première enceinte. Vous voyez très bien, nous allons le voir d'ailleurs dans les cartes suivantes, parce que ce sont des petites maisons, le long de rues absolument parallèles, et tout ça, c'est un véritable lotissement fait par les pauvres. On a tous les habitants de ces maisons, de ces petites maisons loties, ce ne sont pas des gens très riches, ce sont des petites maisons, c'est donc des artisans essentiellement, et même parfois des paysans, parce qu'il y avait encore dans Brive des paysans qui habitaient dans la ville et qui allaient travailler dans les vignes, qui étaient tout près. Il y avait des vignes dès la sortie de la deuxième enceinte. Il y avait des vignes très proches. Passons à la carte numéro 3. Alors, cette carte numéro 3, c'est donc la partie sud-est de Brive. Je crois que ça a été épinglé dans le mauvais sens. C'est bien que vous êtes obligés de vous montrer à des opérations un peu bizarres. C'est pas Bon, alors comme vous le voyez, c'est un quartier qui a pratiquement une forme de rectangle et qui s'étend depuis ce ruisseau du Berdançon à l'est jusqu'à la rue de Puy-Blanc à l'ouest. Alors la rue de Puy-Blanc, c'est pas toujours appelée rue de Puy-Blanc. Au Moyen-Âge, elle s'appelle rue de la Jugie. J-U-G-E. La rue de la Jugie, ça veut dire la rue de la justice. Ça se rapporte également à notre histoire de Motte. Ça veut dire qu'on est dans une zone que le vicomte de Turenne contrôle. Il contrôle un peu toute cette zone. Alors, je commence par le Berdançon. Le Berdançon, il arrive donc du sud. Il commence par se trouver sur une petite place qui a un nom très curieux. Elle s'appelle la place du Puy la Lac ou du Puy la Cave. Alors, la Lac ou la Cave, c'est le petit rond que vous avez à l'endroit où arrive ce ruisseau. C'est une toute petite place et elle a donc un puits. On sait que les puits de Brive étaient essentiellement dans cette zone de la première enceinte. Alors, il y avait un puits qui s'appelait le puits Giral. Il y avait le puits qui correspondait au pont Robigaud, qui était le puits Robigaud à l'entrée de la rue Corrèze, c'est-à-dire au niveau là de ce qu'on a vu dans la première carte, et ainsi de suite. Il y avait une série de puits qui correspondaient à ces ruisseaux. Alors c'est assez inquiétant, parce que ça veut dire que ces puits, l'eau qui est pratiquement une eau polluée. Voilà. Et si on regarde effectivement les registre de décès à Brive, on constate qu'en été, qui était la période de la typhoïde et de toutes les maladies données par l'eau polluée, il y a beaucoup de décès et beaucoup de décès d'enfants. La ville de Brive avait, comme beaucoup de villes de cette époque-là, des gros problèmes d'hygiène dans l'été. Bon, alors, ces puits sont donc probablement assez pollués dans l'ensemble. Bon, il doit y en avoir d'autres, parce que ce n'est pas suffisant pour toute une ville. Il est probable qu'à l'intérieur des maisons, il y avait également des puits. Mais ça ne veut pas dire non plus que dans un endroit aussi plat, ça soit sain. Vous voyez, c'est quand même une ville où l'eau s'écoule lentement. Vous sortez difficilement, vous voyez, de la ville. Alors, dans cette zone, je commence par la zone qui a été depuis quelque temps fouillée, là, juste à côté du moins, et qui est la zone de la rue de la Petite Place et de la maison 1, qui est la maison Maillard. Alors, vous voyez, on rencontre à nouveau les Maillards. On les a rencontrés dans le plus beau quartier, en principe, c'est-à-dire la place devant l'église, et maintenant, on les rencontre dans cette rue, ou le long de cette rue, de la Petite Place. Alors, comme vous le voyez, elle va quasiment disparaître. Elle va quasiment disparaître sous la rue du docteur Masséna, là, une autre, là, qui s'appelait à cette époque-là, enfin, qui s'appelait vers 1800, la rue Sainte-Claire. Elle a perdu, vous voyez, toute une partie qui se trouvait à la...
Un bon tiers.
Alors, oui, un bon tiers. Ensuite, est-ce qu'elle existe encore? Voyons. Où est-ce qu'on est, là? On est juste avant la rue de... La petite rue qui s'appelle la rue de l'imprimerie, là. Non, la rue de l'ancien entrepôt de tabac. Comment elle s'appelle maintenant, cette rue? Il y a les marchands de chaussures, là.
Non,
c'est-à-dire la maison du notaire de Prat.
Qu'est-ce qu'il y a des vêtements?
Et elle est assez vieille, oui. Immédiatement après, on tombe alors sur la plus grosse maison de Brive. Cette fois-ci, avec l'hôtel Labage, c'est-à-dire le musée actuel, c'est considéré comme la plus belle maison de Brive. Alors, comme vous le voyez, elle a été complètement tronquée par la rue Gambetta, mais elle a gardé quand même sa tour, que vous voyez dans la rue Gambetta en penchant un peu. Vous voyez une très belle tour octogonale. Et il y a à l'intérieur d'ailleurs aussi un blason qui montre l'ancienneté et puis les familles qui se sont succédées. Alors cette maison, on l'appelle la maison de Carbonnière dans les villes. Carbonnière, c'est jamais que le sous-préfet qui l'a habité au début du 19e siècle, c'est-à-dire sous la Restauration. En fait, c'est une maison, bien sûr, beaucoup plus ancienne et avec des propriétaires intéressants. Alors, en principe et au départ, c'est la maison de la Renaudie. Parce que on peut considérer que le bourgeois rénal, ou les bourgeois rénales, ils étaient plusieurs branches, ont été vers le 13e et 14e siècle, les plus gros bourgeois de Brive. Une de leurs branches a été anoblie, et précisément elle a pris le nom de la Renaudie. Au lieu de s'appeler Rénal, ils sont appelés de la Renaudie. Et ils ont pris comme arme un soleil, parce que ça faisait allusion au Ré, R-E-Y de leur nom, et au R-A-Y, comme vous voulez, et c'était les rayons du soleil. Bien sûr, les familles qui leur ont succédé ont repris ces armes. Ces Rénales, donc, sont dans cette maison, au Moyen-Âge. C'est pas la maison actuelle, parce qu'évidemment, cette tour, elle date de Louis XIII, pratiquement. Elle date du XVIIe siècle, oui. Mais enfin, ils sont dans cette maison qui est probablement une très belle maison. Elle a non seulement beaucoup d'étendue, mais elle a aussi une cour qui est gigantesque. Elle a un très grand jardin. Et vous voyez qu'elle est toute seule, elle occupe quasiment le quart de la parcelle, le quart de la zone totale. Et ça dure comme ça jusqu'au XIXe siècle, jusqu'au percement de la rue Gambetta. Alors la rue Gambetta, évidemment, lui a fait un mal extraordinaire, puisqu'il a détruit son jardin, pratiquement, et sa cour, et puis il a enlevé une bonne partie de la maison aussi. Alors dans cette maison ont habité une famille de la Chapoulie. Alors les familles de la Chapoulie venaient de Tulle, c'est très rare. Parce que, comme vous le savez, les relations entre Tulle et Brive, surtout au Moyen-Âge, étaient difficiles. Ouais, mais en l'occurrence, ces Chapoulis ont réussi à s'installer à Brive. Par mariage, cette maison est passée à une famille noble, qui est la famille de Barre. Et les Barres habitaient le petit château de Puymarais à Malemort. Autrement dit, c'était quand même plus des voisins plus proches. Et ils ont vendu un homme de justice qui s'appelle Dumas de Neuville. Alors les Dumas de Neuville, ce sont les lieutenants généraux du président, c'est-à-dire les personnages numéro un de la justice de Brive à partir de la fin du XVIe siècle, c'est-à-dire de l'époque des guerres de religion. Ils viennent d'Argentat, ils sont très bien mariés, d'ailleurs ils ont des origines pas nobles, mais enfin très prestigieuses, parce qu'ils sont de la famille des ambassadeurs de Sèvres, autrement dit, des gens d'Argentat qui étaient de haut niveau, et ils vont tenir le haut du pavé à Brive jusqu'au XVIIIe siècle. Ça va être le personnage numéro un de la ville. Il ne faut donc pas vous imaginer que l'hôtel Labinche, le musée, c'était la maison numéro un de Brive. La maison numéro un, c'était celle-là. Et c'est là que Louis XIII a été accueilli lorsqu'il est venu à Brive, en 1632. Alors, il a probablement habité l'hôtel de la Binche, mais il a été accueilli d'abord par le président Dumas. Et comme c'était la tradition à l'époque, ce lieutenant général ou ce président faisait un discours. Je pense que les gens de l'époque avaient beaucoup de patience, parce que c'était d'abord des discours très ampoulés, très longs, et dans lesquels on passait en revue tous les personnages de la mythologie pour dire au roi qu'il était un personnage extraordinaire. En général, les rois, Henri IV a coupé à ce genre de tradition. Il a expliqué qu'il ne voulait pas entendre parler de discours comme ça. Il y avait un autre personnage aussi qui ne voulait pas qu'on l'encense, c'était Louis XI. Louis XI, lui, alors là, il arrêtait tout de suite. Il ne voulait pas qu'on commence à lui raconter toute l'histoire de sa généalogie et toutes les histoires mythologiques possibles, imaginables. Voilà donc pour cette maison. Donc elle passe à ces Dumas de Neuville, qui sont présidents du présidial, qui sont donc les numéro un de la ville. Elle passe ensuite à un receveur d'État très riche qui s'appelait M. Blansade. Nous sommes juste avant la Révolution. Et après la Révolution, elle passe à ce baron de Carbonnières qui venait du Périgord, qui avait une maison à Turenne et qui a aussi également acheté cette maison. Alors il y aurait à ce sujet une étude intéressante à faire sur les prix des maisons. On a pour le 19e siècle et le 18e même, on a beaucoup d'actes de vente. Qui sont tirés des registres des insinuations, tout simplement, du bref. Quoi. Et il y a toujours le prix des maisons. On peut constater qu'à Brive, les maisons se vendaient entre 2000 livres, à peu près, pour une maison vraiment lambda, la maison de base, et 18 000 ou 20 000 livres pour ces très belles maisons. Vous voyez que la différence n'est pas énorme. Hein, c'est
vous
pas...
avez les dessous de table qu'il y avait.
Ah non, on ne parle pas des dessous de table. On peut comparer ça aux dots. Alors, les dots, c'est des très bonnes, des familles hyper riches. C'était dans les 200 000 livres. Les dots des familles de marchands assez prospères, c'était dans les 20 000 livres. Autrement dit, le prix d'une très très belle maison. Alors, je ne sais pas si on pourrait faire une comparaison. Ça serait plutôt des comparaisons comme ça qui seraient intéressantes. Parce que c'est difficile de comparer avec les prix de maintenant. Les dots de maintenant... Je ne sais pas si ça existe encore. À l'époque, c'était tout à fait classé. Mais les maisons, je ne sais pas si ça dépendait de leur état. Je crois que tout le monde s'en fichait de leur état. Hein. On n'avait pas, comme maintenant, l'obsession des fenêtres à double vitrage, et ainsi de suite. Mais je ne sais pas, c'était l'emplacement, je pense, qui comptait essentiellement. Parce qu'après ça, ils ne se gênaient pas pour la détruire. Simplement. Ça a soif de parler. Bon, nous avançons vers la rue Puy-Blanc. En avançant vers la rue Puy-Blanc, on voit au numéro 5 la maison du cousin. Au numéro 5, sur la rue de la Petite Place, on retrouve la maison du cousin de Dumas de Neuville, qui s'appelle Dumas de Soulages. C'est pas son cousin Germain, mais presque. Alors lui, il est le patron de ce qu'on appelle l'élection. L'élection, c'est le service des impôts. Ça veut dire que c'est le receveur des impôts. Et ça veut dire qu'il a été obligé de donner une caution au roi, très forte, ça veut dire qu'il est riche, parce que c'est lui qui, en principe, paye d'avance les impôts au roi. Ça veut dire qu'il y en a derrière lui. Ce n'est pas rien. C'est pour ça aussi qu'il est obligé de donner une caution. Parce que le roi se méfie de gens qui ne seraient pas capables de payer. Mais le résultat, c'est qu'il peut se rembourser après sur les gens. Et on lui laisse toute l'attitude. Il n'est pas censé récupérer uniquement la somme qu'il a donnée au roi. Ce ne serait pas juste. Ah, quand même, avec tout le mal qui s'est donné, ce ne serait pas juste. C'est donc un personnage, lui aussi, venu d'Argentat, où il a d'ailleurs à Saint-Chamond, juste à côté, un petit château qui s'appelle le château de Soulages. C'est un personnage qui est bien. Mais comme vous le voyez, il s'est payé une maison qui est moins importante. Alors il en reste des débris de cette maison. Vous passez par la petite rue qui s'appelle la rue des Fours à l'époque et qui s'appelle, je ne sais pas comment maintenant, c'est appelé la rue des Pins à un moment donné. Cette petite rue donc qui est en équerre, vous voyez. Et on voit une très belle porte, de maison, qui est les restes de cette maison du Mat Soulages. Mais tout le reste a été détruit par la rue Gambetta. Comme vous le voyez, ça traverse la cour intérieure et puis les bâtiments principaux. Ça veut dire qu'il en reste à peine un tiers de cette maison. Bon, alors, cette rue, le numéro C, donc aidée, c'est-à-dire cette rue qu'on peut appeler la rue des Fours à l'époque, est en fait une rue qui n'est bordée à cette époque-là, disons au Moyen-Âge et même jusqu'au XVIIe siècle, pratiquement que par des granges, vous voyez, et puis des fours. Le numéro 9, par exemple, de cette rue, la rue D, elle correspond à une maison sur la rue de la Petite Place. qui s'appelle aussi le numéro 9. Le numéro 9, c'est cette maison, petite maison, dont l'entrée est au fond d'une petite cour. La porte est fermée, il y a une porte grillée. Et au fond de la cour, on voit qu'il y a une belle tour, avec des arbres. Et puis, cette maison s'étend jusqu'à cette rue de fou. Et c'est les gens qui l'habitaient, c'était donc la famille Sapientis, qui est une famille fort riche, elles avaient aussi des granges et des remises de l'autre côté de la rue, de la rue du Four. Autrement dit, ça se complétait, si vous voulez, de part et d'autre, de la rue. Ensuite, au numéro 7, je tombe sur une maison qui laisse un problème, parce que le seul propriétaire qu'on connaisse, c'est celui du 18e siècle, et il s'appelle M. d'Auvergne. Alors là, je n'ai même pas trouvé dans les registres, je l'ai trouvé nulle part. Ça doit être une erreur de Masséna, qui faisait donc la liste de toutes les maisons, qui leur donnait des numéros. Il a dû se tromper, parce que là, on ne voit pas du tout qui c'est. À partir de là, d'ailleurs, on arrive, vous voyez, sur la petite place. Alors, cette petite place, normalement, elle est entourée de maisons qui appartiennent aux prieurs, parce qu'on est là autour de l'église. Malheureusement, on a perdu complètement le terrier du prieur qui concernait ces maisons-là. Autant on les a pour celle de la place devant la collégiale, autant on les a aussi derrière la collégiale, c'est-à-dire la maison de l'Anglade, etc. Autant ici, on est un peu le bec dans l'eau. Et c'est dommage. Et c'est pour ça aussi que ça a été une immense surprise quand les archéologues ont fait les fouilles de cette place et puis qu'ils y ont trouvé un cimetière. Parce qu'on n'a aucun document, mais strictement aucun document ancien, qui parle de ce cimetière. Monsieur de Nussac et puis monsieur d'Autremont, qui étaient un peu les spécialistes de l'histoire de Brive, avaient pensé que ça s'appelait la place de la Gralle, parce qu'ils entendaient par Gralle, et que ça avait été habité par des gens qui s'appelaient les Quignards. Les Quignards, c'est une grosse famille bourgeoise alliée aux Maillards. Alors, ce qui nous avait fait penser à ça, c'est que la maison qui est le numéro 10 était une maison Maillard. Et du même coup, ils se sont dit que ça devait être une maison Quignard. Mais ils s'étaient trompés, malheureusement. Et vous verrez, lorsque nous ferons la dernière balade dans Brive, là, du côté de la rue des Sœurs, de la rue de la République, vous verrez que c'est par là, en réalité, que ces Quignards habitaient. Alors, qu'est-ce qui a bien pu se passer ? En principe, les archéologues nous disent que ce cimetière, il a été utilisé jusqu'au 15e siècle. 15e siècle, c'est la guerre de 100 ans. Ça veut dire que, probablement, on y a enterré des gens qui y ont été soit pestiférés, soit qui avaient brûlé avec leur maison, parce qu'il y a eu quand même des épisodes un peu graves à Brive. Peut-être qu'après, on a désaffecté le cimetière. Et ça expliquerait que les maisons qui entourent cette place, et qui ont toutes des tours, on devrait l'appeler d'ailleurs la place des tours, c'est des maisons du 15e, 16e siècle. C'est-à-dire des maisons qui ont attendu pour se construire que le cimetière soit désaffecté. Parce que si vous êtes un gros bourgeois, vous avez envie d'avoir une belle maison, je ne sais pas si vous la mettez sous le cimetière directement. Hein. Vous ne choisissez pas son coin-là. Ça veut dire que ce coin-là, il a commencé à être vraiment bien habité, et pas simplement par quelques petites maisons sans intérêt. Il a commencé à être bien habité au 15e, 16e. Et on arrive alors dans la rue de Puyblanc. Et là, alors là, on a la très belle maison numéro 11. Là encore, on est dans ces maisons qui appartiennent aux prieurs, pour lesquels on sait très bien évidemment qui les a habités, qui l'a habité au XVIIIe siècle, mais c'est dommage, on n'a pas celui qui l'a construit. Or, c'est une des plus belles maisons de Brive. C'est celle où il y a le magasin qui s'appelle Le Tu, je crois.
Oui, c'est Le Tu, à côté de Bogota.
Ouais, elle est superbe, cette maison. Ça devait être vraiment des grands bourgeois. Mais lesquels ? On n'en sait rien, parce que tout ce qu'on sait, c'est que c'est toujours cette famille Sapientis. Cette fois-ci, c'est les Sapientis de Favard qui l'habitent, mais c'est seulement au XVIIIe siècle. C'est donc pour nous vraiment très tard. Alors, dans tous les recensements de Brive, la rue de Puyblanc, elle est coupée en deux. D'un côté, ça fait partie d'une section, vous voyez, et l'autre côté, c'est une autre section. Comme on dit, depuis toujours, on a considéré la rue Puy Blanc comme une limite. Et c'est effectivement, bon, une limite assez nette. Alors, une autre maison qui vaut la peine aussi, parce qu'elle a une belle tour, et si elle était décrépite, elle serait probablement magnifique, c'est la maison 12, qui est de l'autre côté de cette rue des Fours. La maison 12, elle appartenait à une famille Blaumont, qui était honorable au XVIIIe siècle, mais c'est toujours pareil, on ne sait pas, qui l'a habité avant. Et là, c'est évidemment très dommage. Nous arrivons à la porte de l'enceinte, c'est-à-dire la porte G. Alors, ce porche, là encore son nom, c'est un nom très récent. Le dénommé Margot, c'était un notaire qu'on voit apparaître au XVIIIe siècle. Donc avant, elle a dû avoir un autre nom, dont on n'a pas idée, qu'il faudrait chercher. Et ce porche, donc, il a été détruit, lui, après avoir menacé ruine dès 1770. Autrement dit, il était en fort mauvais état. Il a donc été détruit, lui, en 1828 seulement. Ça veut dire qu'en 1828, en pleine restauration, ce coin de brique devait encore avoir un aspect extrêmement ancien, vous voyez. La rue de Puy Blanc, au départ, ce n'est pas une rue très passante. La rue de Puy Blanc, au départ, c'est celle qui mène tout simplement à Noailles. Ça va pas loin. Mais en revanche, dès que la route Paris-Toulouse, au lieu de passer par la rue des Frères et sortir vers Turenne, se met à sortir par Noailles et ensuite Souillac, il est évident que c'est devenu la rue passante principale. Une des rues vraiment les plus passantes et les plus commerçantes. Et effectivement, maintenant, ça reste également une rue commerçante. Alors en dessous, vous voyez le ruisseau. Là, le ruisseau, c'est simplement une petite dérivation du Verdançon. C'est pas un vrai ruisseau. Et bien, juste en dessous, vous avez ce fameux lotissement du vicomte de Turenne. Et c'est là que vous voyez ces petites maisons, toutes petites, qui forment des îlots peu larges, et que l'on peut rejoindre par une espèce de passage qui passe par derrière les maisons, mais qui est particulièrement malsain. Parce que c'est sur ces petits passages qui passent derrière les maisons que sont toutes les sorties de privés. On en dit, c'est pas comme on se balader dans le petit passage.
De l'autre côté aussi, c'est un lotissement.
Tout est en lotissement, là.
Ah oui, oui, c'est ça.
À partir de là, dans tout ce quartier, jusqu'à la porte, jusqu'à la deuxième enceinte. Tout ça, c'est complètement loti par le Turenne. Et on a tous les noms des propriétaires. Et je passe donc au dernier de ces plans. C'est-à-dire au quartier marchand et bourgeois, c'est-à-dire ce quartier qui est au sud-ouest de Brie. Alors, on peut appeler ça un quartier non seulement de marchands et de bourgeois, mais surtout le quartier du consulat, parce que les consuls de Brie se considèrent quand même comme les co-seigneurs de la ville avec les Malmorts et avec les Turelles. Ils ont toujours insisté sur le fait qu'ils étaient seigneurs de la ville. Alors, les rois de France sont toujours d'accord. Les rois de France sont toujours d'accord pour que les bourgeois se considèrent comme seigneurs quand il y a de véritables ducs, de véritables comtes qui sont aussi seigneurs. Parce que pour le roi, les ducs et les comtes, c'est quand même une espèce de concurrence. Ils ont donc tendance à mettre en concurrence ces seigneurs avec les consuls. Et bien sûr, à soutenir plutôt les bourgeois que les nobles. C'est normal, si vous voulez. C'est pareil, pendant la ville, vous avez un abbé, par exemple le cas de Beaulieu, ou le cas d'Aurillac, et puis des consuls. Systématiquement, le roi soutient les consuls contre les puissances religieuses. Donc, d'une manière générale, si vous voulez, ils se mettent au service du plus faible. Théoriquement, ce qu'on pourrait appeler le plus faible. En tout cas, les consuls de Brive sont des hauts personnages. Ils ne se considèrent pas du tout comme inférieurs aux vicomtes de Turenne et aux seigneurs de Malmort. Et la plupart du temps, ils refusent de rendre hommage à genoux, tête nue et ainsi de suite, en disant qu'ils sont à égalité avec ces seigneurs. Ça va d'ailleurs les pousser à plusieurs occasions à essayer de combattre ces seigneurs, et même à refuser de payer les rentes. Alors il y a des épisodes célèbres. Au moment de la guerre de Cent Ans, ils vont carrément s'attaquer au seigneur de Malemort, et sans que véritablement le seigneur de Malemort les ait provoqués, il avait simplement mis en prison à un moment donné un des consuls, mais c'était pour une affaire privée, c'est parce que ce consul buvait de l'argent, eh bien, ils montent une opération et ils s'en vont détruire le château de Malemort. Comment dire, vous voyez, ils sont allés carrément. C'est pareil aussi quelques années après, lorsque Raymond VIII, qui est vicomte de Turenne, se bat avec eux, au prétexte qu'ils ont refusé de payer, parce que lui, il donnait de l'argent au roi pour la guerre, et le roi l'avait autorisé, bien entendu, à se payer sur les bourgeois de Brie. Les bourgeois de Brie ont refusé de payer, et il y a eu ce que les historiens de Brie appellent une guerre épouvantable entre le vicomte et les seigneurs de Brie, les bourgeois de Brie. Paraît-il, le vicomte, il a détruit tout autour de la ville, il a démoli le pont, qui n'a pas été reconstruit avant 200 ans, ou à peu près, vous voyez, quelque chose d'horrible. Il a brûlé les vignes, enfin, il en a fait pique-pan. Seulement, c'est amusant de lire les actes qui ont été faits juste après cette guerre, où on s'aperçoit que ce n'est pas tellement le vicomte qui est là, mais ce sont les habitants des paroisses alentours. Ils se sont effectivement tous précipités sur Brie, et probablement, ils se sont bien payés, quoi. Il y avait ceux de Sérignac, de Péché, de Lanteuil, de Damien, et ainsi de suite. Voyez. Et ma foi, c'était une espèce de petite guerre entre une ville riche et une ville qui avait dû faire envie. Parce qu'évidemment, pendant la guerre de Cent Ans, elle s'était mieux comportée, ou en tout cas, elle s'était mieux débrouillée que les petites paroisses alentours. Donc, tout ça. Bon, alors, où sont ces consuls? Eh bien, ils sont dans cette maison, qui s'appelle la maison de ville, vous voyez, et qui est à l'extrémité de ce qu'on appelait à l'époque la rue des échevins. Encore que ce mot échevin est bien douteux, parce que c'est un terme qui est utilisé dans le nord de la France, et ça devrait s'appeler tout simplement la rue des consuls. Parce que ici, c'est des consuls, c'est pas des échevins. Comme vous le voyez, cette maison, elle barre la rue des échevins. Autrement dit, cette rue ne continuait pas jusqu'à la fin de la deuxième enceinte. Alors, c'est une maison qui appartenait à, une fois de plus, à la Bourgeois, qui s'appelait Monsieur de Martel. Seulement, semble-t-il, il avait eu des ennuis, on lui avait confisqué sa maison, et donc les consuls vont s'y installer. Elle sera brûlée par les protestants en 1577, reconstruite, bien sûr, et elle reste une maison de ville jusqu'au XVIIIe siècle, jusqu'à la Révolution, jusqu'au moment où les consuls, c'est devenu une municipalité, s'installent dans l'actuelle bibliothèque, c'est-à-dire dans le prieuré. Mais cette maison, donc, est restée maison de ville. Alors, elle a été vendue provisoirement à un monsieur Chamaillard, et ensuite, ce monsieur Chamaillard, qui devait trouver qu'elle était vraiment en ruine, parce qu'elle est déjà presque au XVIIIe siècle, préfère la vendre à la ville pour servir de presbytère au curé de Saint-Martin. Lequel curé de Saint-Martin va donc quitter la petite maison qu'il avait au fond de l'impasse derrière le prieuré. D'ailleurs, cette maison-là avait été achetée par la famille Labrousse, la famille du sénateur Labrousse. Bon, alors cette maison de ville, telle qu'elle est dessinée ici, sur ce plan, qui est un plan officiel, elle est assez mal dessinée. En fait, c'est le jardin qui est sous le chiffre 307. Et ce que vous avez sous maison de jardin, c'est pas le jardin du tout, c'est la maison dans laquelle il y a maintenant un bar, qui est très ancienne, qui existait donc, et c'est pas du tout un jardin. Vous voyez ce qui est dans le pointillé, ici c'est pas un jardin, c'est une maison très vieille. Si vous regardez la partie intérieure de cette maison, elle a des arcades ogivales, hein. Comment dire, c'est une très vieille maison. Bon, alors là, on est dans des maisons très anciennes et très vieilles. Les trois maisons de la rue des Échevins la numéro 1, numéro 2 et numéro 3 ont des tours Renaissance magnifiques. Autrement dit, c'est des maisons d'époque Renaissance. Elles sont vraiment très belles, surtout la numéro 3. Le propriétaire de la numéro 3 est en train de la modifier, de la restaurer. Elle a été fortement à l'intérieur modifiée par une famille Favarelle, qui était une famille d'épicerie en gros, je crois, et de boulangerie aussi, de minoterie, voilà, de minotier. Donc à l'intérieur, elle a été pas mal modifiée, mais voilà, c'est une superbe maison. Et elle a une tour intérieure qu'on ne voit pas de la rue, mais qui est aussi belle que la tour Renaissance de la maison numéro 1, c'est-à-dire de la maison qu'on appelle la maison du Bousquet. Alors ensuite, il y avait probablement de très belles maisons, mais la rue de l'Hôtel de Ville a coupé tout ce quartier et l'a complètement modifié, parce que toutes les maisons qui sont en bordure de la rue de l'Hôtel de Ville, de part et d'autre, ont été entièrement construites. Visiblement, en 1880, après, on admirait beaucoup Paris, et ce que les gens ont voulu faire, c'est une petite rue parisienne. Effectivement, la rue de l'Hôtel de Ville, par sa largeur, par la beauté des maisons, parce que c'est des très belles maisons, avec des petits pignons, enfin des très belles maisons, montrait la richesse, vous voyez, la prospérité de la ville en 1880. C'était, le nom de ces trucs étaient les magasins de mode, les plus beaux magasins. Et ensuite, nous arrivons dans la rue des Sœurs. Alors, le début de la rue des Sœurs, c'est la Maison Neuve. La Maison Neuve, c'était théoriquement, j'ai pas vu de texte, on va dire que c'est la tradition, le premier hôpital de la ville. Très rapidement, cet hôpital a été déplacé dès 1350, vous voyez, très rapidement, dans le quartier de la rue des Frères, c'est-à-dire presque en face du musée, un petit peu plus loin. Là, c'est rapidement devenu probablement une maison bourgeoise. Et elle a été habitée par la famille Verlac, qui est une des vieilles familles de Brive aussi, puisque c'était les familles des procureurs du roi. Les procureurs de roi dans la justice, c'est le personnage qui plaide pour le roi, qui le représente. Il y a eu 7 générations de Verlac successifs, procureurs de roi. Si bien que juste avant la Révolution, on va dire un poil près, ils ont été anoblis, parce qu'on était anoblis au bout d'un certain nombre de charges comme ça. C'était trop tard. Mais malheureusement pour eux, un peu trop tard. Alors, cette rue de la des Sœurs, cette rue des Sœurs, dans la partie qui nous intéresse, c'est-à-dire à l'intérieur de la première enceinte, elle est extrêmement étroite. Elle a, si vous voulez, par rapport aux autres rues, cette forme un peu rayonnante qu'on retrouve aussi dans la rue traversière, c'est-à-dire la F, et puis la rue du Lion d'Or, qui est la rue E. Tout ce quartier-là est habité par des bourgeois qui sont surtout aubergistes, dont les ancêtres ont souvent été bâtiers. Bâtier, c'est celui qui mène les mulets, vous voyez, un bâtier ou un bastier, ou alors des marchands de voitures, de carrosses, etc. Autrement dit, ça a beaucoup de rapports dans tout ce quartier avec le voyage, avec le commerce. Alors, parmi ces maisons, vous avez par exemple, encore une fois, une maison Malpère. C'est la maison numéro 10. C'est Malpère, donc marchand. Ensuite, vous avez la maison de M. Taillefer. C'est la maison 11. Alors, il est bâtier, donc, c'est-à-dire qu'il conduit des mulets, des caravanes de mulets. Et comme vous le voyez, il a sur les fossés, dans la rue des Anciens Fossés, qui s'appelle d'ailleurs maintenant, je pense, la rue Maillard à ce moment-là, au numéro 11, il a une très grande remise dans laquelle donc il peut établir son écurie. Vous voyez, 11 à l'intérieur de la rue et ensuite dans cette petite rue, cette place. Enfin, vous avez la porte. Et c'est là qu'on s'aperçoit que M. de Nussac et M. d'Autremont s'étaient trompés, parce que c'est précisément dans cette porte que se trouve la maison Quignard. Mais Quignard habite la partie est de la porte, et la famille Dufort, je crois, habite la partie ouest. Donc le numéro 12, c'est la famille Quignard, et le numéro 13, c'est la famille Dufort. C'est ça, avocat. Alors, cette porte s'appelle la porte de la Gramme, ou encore, au 19e siècle, le porche Essartier. Parce que Essartier était un notaire qui habitait probablement dans le coin. Cette rue de, des Sœurs, elle n'a pratiquement pas été modifiée. Ces façades ont probablement été reculées, beaucoup de façades, ça nous prive évidemment des façades comme celle de la rue Puy-Blanc. Mais enfin, en principe, elle a gardé son aspect ancien. C'est-à-dire qu'elle n'est pas droite. Elle est très calme, évidemment, parce que la rue Gambetta a enlevé le commerce qu'elle pouvait avoir. On voit au 19e siècle le passage des magasins depuis cette rue jusqu'à la rue d'Hôtel de Ville, hein, parce que c'était pas loin. Donc les commerçants passent d'une rue à l'autre, parce que la rue d'Hôtel de Ville est beaucoup plus passante. Enfin, c'est une rue qui garde son charme.
Elle était très commerçante.
Alors, elle a été très commerçante.
Ah, oui. Notre temps, elle était.
Oui, essentiellement quand même des marchands de tissus. Un peu comme la rue d'Ouzac.
Il y avait des épiciers, des boulangers,
il y avait des
boulangers, des
bouchers. C'est-à-dire que c'était probablement encore une voie de passage.
On pouvait juste passer.
Il y avait deux sabotiers.
Oui,
chez
Deva et
chez.
Il y avait la chambre des serres.
Oui, c'est vrai. Il y avait tout.
Il y avait les parcs à trappes.
Oui, mais c'est un peu mystérieux. Le fait que ces rues soient ou non passantes, ça pourrait être une question de voie piétonnière. Mais alors là, ça nous mène quand même dans le 18e. Voilà. Tandis que là, elle n'est pas du 18e, madame. Elle a quand même connu passante.
Ah oui.
Après que ça soit pour la route de Bordeaux. Ah,
mais c'est pas normal,
Bordeaux.
Voilà, et puis j'arrivais enfin dans la rue Malbrayard, dans les débats, à l'arrière, les maisons sont les maisons de la place. Il est évident que ces maisons-là, de ce côté-là de la rue, elles n'étaient pas considérées comme très belles, et c'était plutôt des remises, des écuries, des choses comme ça. Voilà, j'ai fait le tour. J'espère que vous m'avez suivi. Que vous ne vous êtes pas trop avec.
Je bachellerie de la numéro 9, 8.
Oui.
Bachellerie.
Oui, bachellerie.
Numéro 8.